Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Je te lance l'instru et puis on voit si ça t'inspire. T'es prêt?
Ouais, vas-y. Salut, c'est Nedelko, vous êtes sur Groover Tips avec Anaïs Lawson, directrice artistique du label Je n'ai jamais, et moi-même pour parler d'un sujet très important pour moi, comment gagner de la visibilité quand on est un jeune artiste qui démarre.
T'es pas visible toi?
À tout de suite.
T'es pas visible?
Bof, à moitié. Genre borgne, enfin...
Donc t'espères que ça va changer là?
Ouais.
Tout va se jouer dans les 20 prochaines minutes.
Ouais, exactement, voilà. Après ce podcast, normalement, je suis connu.
Ah, t'es déjà à 1 million là.
Ouais.
Ça va vite.
Ça grimpe, attends, je regarde. Ah ouais.
Ça monte?
Ouais.
Ça monte, parfait.
Ouais, ça arrive déjà en masse.
Ça, c'est génial.
Et Romeo Elvis qui m'envoie un message. Ok.
Bonjour à tous, c'est Ismaël, bienvenue dans les coulisses de l'industrie musicale. Alors vous le savez, le chemin est long et sinueux pour devenir des grosses moulas, et malheureusement nous on n'a pas de GPS magique pour vous emmener direct sur la planète des mégastars. En revanche, toutes les deux semaines on va vous livrer quelques tips pour tenter de décoder cette grande matrice qui est le business de la musique. Et pour ça, rien de mieux que d'échanger avec des gens qui sont au cœur de cette matrice. C'est pour ça qu'à chaque épisode je recevrai un professionnel de l'industrie et un jeune artiste pour une discussion sur un thème précis. Et aujourd'hui, pour le deuxième numéro, on a choisi de continuer l'histoire. Comment gagner en visibilité quand on est un artiste émergent? Comment assurer sa communication quand on est tout seul et qu'on n'a pas trop de moyens? Alors pour essayer de répondre à cette question qui obsède beaucoup de jeunes artistes, j'ai à mes côtés deux invités de marque. Tout d'abord, Anaïs Lawson, qui est responsable artiste et catalogue du label Je n'ai jamais, qui au passage fait partie des 12 labels indépendants à suivre en 2020 d'après les Inrock. Comment ça va Anaïs?
Salut, ça va et toi?
Bah ça va, merci d'être là. Je n'ai jamais, c'est donc de l'urbain, comme on dit.
Oui.
Pour citer quelques artistes, vous avez notamment au catalogue le très créatif Wit, le beatmaker Nodé ou encore le rappeur Joel Feno dont l'album vient de sortir.
Il va sortir le 6 mars.
Voilà, donc probablement quand vous écouterez l'émission, ça sera sorti. En deux mots, peut-être pour ceux qui ne savent pas exactement ce en quoi consiste ton travail, concrètement au sein du label responsable artiste et catalogue, ça veut dire quoi?
Bah normalement ça se prononce A&R, donc c'est artiste et répertoires, et donc l'idée c'est de constituer un catalogue qui corresponde à l'esthétique qu'on a définie ensemble. Nous c'est plutôt rap underground, et du coup l'idée c'est de faire du scouting et de découvrir des jeunes talents. La direction du label c'est de faire du développement de carrière, donc vraiment de prendre des artistes qui sont même parfois à zéro, et donc c'est repérer les artistes, créer du relationnel avec eux, et ensuite adapter le contrat pour qu'ils aient un contrat soit de distribution, soit de licence, soit contrat d'artiste au sein du label.
Ok.
Voilà.
À tes côtés, un artiste, Nedelko. Merci d'être là, Nedelko.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très bien.
Bon, tant mieux. Tu as rejoint, toi, le collectif de l'Animalerie.
Tout à fait.
Grand collectif lyonnais de base, qui regroupe notamment Lucio Bukowski, Anton Serra et le beatmaker Auster Lapoisse, avec qui tu travailles plutôt étroitement.
Ouais.
T'as sorti un premier projet, Réologie, fin 2019.
Tout à fait.
Dont voici un petit extrait.
Respect. On vit tout seul et puis on meurt. Pareil. Ancré en moi comme toutes ces peurs. Charnel. C'est que de l'amour, c'est que des cœurs. Fanés. Des âmes fécondes et puis des fleurs. Javel. T'es pas heureux, pourquoi tu pleures? Jamais. T'es grand effort, oui, mais tu peux te rater. Le ciel vieillit, enfin les heures s'arrêtent. Et les histoires sont les mêmes que la veille.
Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, je l'ai dit, le thème, c'est comment gagner en visibilité et assurer sa communication quand on est encore un artiste émergent. Alors du coup, je commence avec toi, Nedelko. Est-ce que déjà, c'est toi qui gères tes réseaux, ta communication jusqu'à présent?
Tout à fait, parce que je pense que personne ne voudrait le faire.
Et tu t'en sors comment?
Non, les réseaux, bah ça va, écoute, je suis pas très assidu en fait, disons juste ça. Je suis très musique et puis quand il y a un truc à poster, je le poste, mais je fais pas de stratégie, disons.
Ouais, t'as pas conçu de stratégie au préalable de communication?
Ouais, non, c'est quand ça sort, voilà, j'explique assez rapidement et puis voilà, c'est pour les gens.
Et c'est un truc que t'aimerais développer, gagner en visibilité par exemple sur Instagram ou les autres réseaux?
Ouais, bien sûr, forcément, puisque aujourd'hui il y a beaucoup de beaucoup de médias qui, pour qui c'est important. Et puis beaucoup pour les artistes aussi, c'est essentiel pour trouver des dates, pour plein de choses.
À quel problème tu t'es confronté jusqu'à présent justement dans cette stratégie de communication? Est-ce que t'as rencontré des difficultés particulières?
Des difficultés particulières, alors attends, j'ai réfléchi, forcément oui. Désolé, je bloque.
Bah t'inquiète, alors...
Je me tourne vers Anaïs. Toi, quand tu reçois justement des artistes en rendez-vous, des artistes qui veulent signer ou autre, est-ce que tu prêtes attention à leur réseau, à leur communication?
Ouais, c'est quelque chose de très important parce que ça permet de faire découvrir l'univers de l'artiste. Donc l'esthétique, c'est aussi quelque chose qui est important, surtout avec les artistes que je développe sur le catalogue. Donc du coup, il y a pas mal d'attention portée là-dessus. On regarde s'ils arrivent à s'entretenir avec leur communauté, comment ils font pour avoir des rendez-vous, comment ils font pour avoir des rendez-vous avec leur public, comment ils font pour avoir plus de commentaires, plus de partages, plus de likes. C'est important quand même de voir qu'en fait, il y a une histoire qui se crée avec le public qui le suit.
Est-ce qu'il y a des minimums, des trucs essentiels que tu, en termes de com, que tu regardes absolument pour juger de la crédibilité justement de l'artiste? Quels sont les paramètres que tu évalues?
Vraiment basique pour moi déjà, c'est de bien communiquer. Donc si tu as un single qui sort ou un projet, il faut vraiment qu'on puisse retrouver déjà les covers tout simplement sur Instagram ou sur Facebook. Ensuite aussi, donc s'il y a des teasers pour justement teaser les clips, si les relais en fait sont bien faits et que en fait, c'est une belle vitrine qui donne envie de s'engager dans le projet. C'est un peu des bases qui permettent de savoir aussi si les personnes qui sont derrière ont vraiment envie de se professionnaliser et du coup de respecter des petits préceptes de base de communication.
Et en même temps, c'est parfois compliqué parce qu'il faut avoir cette vitrine-là de communication assez propre, assez pro. Et on sait qu'à l'ère des réseaux maintenant, il faut aussi être un peu perso, donner un peu de soi. Comment t'évalues cet équilibre pour les jeunes artistes?
Ça, c'est pas facile, hein, parce qu'il y en a qui adorent se prêter au jeu et c'est dans leur personnalité aussi de se montrer sur les réseaux sociaux et du coup de soit faire rire, soit faire pleurer ou soit juste emmener son public en studio, faire des stories quand t'es en train d'enregistrer. Et il y en a d'autres qui sont assez pudiques. Donc eux, ils vont beaucoup réfléchir à la photo qu'ils vont poster, beaucoup réfléchir à la façon dont ils ont envie de communiquer sur tel ou tel sujet. Et là, il y a moins de récurrence, mais on va dire des posts plus rares, mais de qualité aussi. Après, on peut prendre des exemples aussi. Par exemple, je trouve que le rappeur Josman, il est assez discret et en même temps, il est très fort sur les réseaux sociaux, pour donner un petit exemple. Donc en fait, ça dépend en fait de la stratégie et aussi, ça sert à rien de se forcer à faire quelque chose si c'est pas dans sa personnalité. Ça sert à rien d'essayer d'être drôle si on l'est pas, parce que le poteau rose, il va être vite découvert par le public.
Toi, Nedelko, par rapport à ce que dit Anaïs, justement, ça te parle?
Bah ouais, en fait, pour rebondir un peu là-dessus, pour pas qu'il y ait de mésentente, en fait, moi, je fais pas mal attention à l'esthétique de mes réseaux. L'esthétique, on fait des teasers, on fait tout ça. Ce que je voulais dire quand je disais que j'avais pas forcément le réflexe de chercher plus, c'est plus le chercher le commentaire, le truc qui fait réagir en fait, c'est plus ça. Par contre, l'image, les clips, on fait super attention, je les fais pas avec n'importe qui. J'ai mes personnes de confiance, je m'entoure avec des gens dont j'aime le travail. Et en fait, les retours, ils se font beaucoup en sous-marin finalement. C'est-à-dire que moi, j'ai pas mal, beaucoup de gens qui m'envoient des messages directement à moi. Et c'est vrai que ça se retrouve pas vraiment sur l'espace commentaire, en fait, où je pense que c'est aussi un peu ce que je fais comme musique qui veut ça, peut-être.
Plus intimiste.
Exactement, ouais, c'est ça. Où il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'envoient des messages longs et très touchants et très cool. Mais c'est vrai qu'en commentaire, on va pas avoir trop de réactions ou quoi. C'est peut-être un peu pour soi, en fait, finalement.
Anaïs, toi, tu fais attention aux chiffres des réseaux et des artistes que tu reçois?
Non.
Honnêtement.
Okay. Ça dépend après le type de profil et la demande de l'artiste, parce que moi j'adapte vraiment chaque contrat à l'artiste. Donc s'il arrive et qu'il a des envies de grandeur et d'une énorme avance, et là je vais regarder les chiffres, parce que du coup il faut que je regarde si ça correspond du coup à sa demande ou pas du tout. Et par contre, si c'est quelqu'un justement qui est dans une volonté juste d'avancer et de se développer et qui peut partir à zéro, on y va, quoi, il n'y a pas de souci.
Alors justement, pour les artistes avec lesquels tu travailles, j'imagine que quand il y a des projets qui sortent, certains font appel à des attachés de presse, mais avant ce stade-là, est-ce que justement vous mettez au point des stratégies? Comment vous les bossez? Est-ce qu'il y a des réseaux à privilégier? Comment vous travaillez ça ensemble?
Bah ça, on fait ça par rapport au public de chaque rappeur. Donc par exemple sur Joel Feno, on va avoir une communauté Facebook qui va être largement plus grosse que celle d'Instagram, juste pour une question aussi de temporalité. C'est quand il a fait le buzz, c'était Facebook qui était à la mode. Maintenant, des années sont passées, c'est Instagram. Du coup, il y a une espèce de conversion à faire pour ramener les gens vers son Insta. Mais on est obligé de privilégier Facebook parce que c'est là où il a le plus de public. Alors que sur un artiste comme Wit, ça va être le contraire. Et il aura très peu de gens sur Facebook, sauf pour suivre un peu tout ce qui est événements et concerts. Et il va avoir beaucoup de monde sur Instagram qui va le suivre et vouloir voir ses photos et voilà. Donc du coup, on réfléchit selon en fait chaque artiste, ce qu'il a envie de faire aussi, qu'est-ce qui permet de le faire. Et à partir de là, on bien sûr, on réfléchit à des stratégies de communication là-dessus, et on est aussi aidé par des agences de web marketing.
Ça coûte cher tout ça à peu près ou pas?
Ça dépend en fait. C'est sûr que quand on est artiste indépendant et qu'on n'a pas de support derrière d'un label, ça peut être considéré comme cher, mais c'est pas non plus si cher. Je pense que avec 500 euros de budget, on peut faire une belle campagne YouTube, Instagram, pour avoir plus de visibilité.
Je pose une question que certains se posent souvent. Bon, acheter des followers sur les réseaux ou des vues YouTube, est-ce que ça sert? Parce que beaucoup vont dire que ça peut être ça crée un effet de grossissement et d'attrait qui après va s'estomper, mais entre-temps, on aura gagné des gens. Donc, il y a des gens qui font cet investissement-là comme un achat de pub, en fait. Quel retour vous avez-vous là-dessus?
Bah, je veux pas juger non plus, donc je pense que chacun travaille sa stratégie comme il a envie et selon son public. Il y a un côté aussi bling-bling, quand tu as beaucoup de followers, bien sûr que ça peut impressionner des gens et ramener de la communauté. Après, toujours faire attention avec ça, parce que si tu vends du rêve à l'aide de faux abonnés et que tu sors un son et qu'il est à peine streamé, bah, directement, tout le monde est au courant que c'est du faux. Et après, moi, je travaille pas comme ça, parce que je trouve que dépenser de l'argent pour un chiffre sur un téléphone ou un ordinateur, c'est un peu débile. Je préfère dépenser de l'argent en sponsorisation pour avoir un vrai abonné qui aura pu voir passer une pub ou une recommandation sur YouTube et qui se sera intéressé au projet et qui aura décidé de lui-même de s'abonner. Et c'est une vraie personne de gagner. Donc, quitte à dépenser de l'argent, je préfère que ce soit pour avoir des followers qui soient réels.
Toi, Nedelko, c'est une question que tu t'es déjà posée à titre perso pour franchir certains paliers en tant que jeune artiste?
Non, l'achat de followers, de vues, de streams, tout ça, ça nous intéresse pas vraiment. D'autant plus qu'on a aussi envie que nos vues soient en rapport réel et direct avec l'engagement derrière. C'est-à-dire qu'une vue, elle doit vouloir dire quelque chose, en fait. Et j'ai vu pas mal d'artistes, du coup, qui utilisaient ces procédés-là. Et au final, après, ils jouent devant des salles vides ou des choses comme ça. Ça sert strictement à rien. C'est plus intéressant que chaque vue soit vraiment du fait d'une personne qui en a entendu parler. Les retombées, après, elles sont beaucoup plus positives, finalement. Et on ne dépense pas de sous inutilement.
Quels sont, justement, pour toute une catégorie d'artistes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens à leur disposition, qui ne sont pas forcément encadrés par des gros labels ou autres, quels sont les outils à disposition aujourd'hui pour essayer de toucher plus de monde?
Groover.
Voilà, effectivement. Groover est effectivement un très beau débouché pour les jeunes artistes.
Ça permet du coup, à moindre frais, de pouvoir quand même toucher pas mal de relais, parce que tout se passe sur les réseaux sociaux. C'est surtout les webzines, après il y a les radios, il y a les playlists, mais tout est surtout digital. Et donc du coup, c'est du relais, et donc plus de personnes touchées grâce à ces relais de clips, d'EP, ces petites chroniques. Enfin, tout ça, ça crée en fait un ensemble qui ramène du monde vers la page de l'artiste. Et sinon, je dirais aussi juste les bonnes pratiques, en fait. Il y a des choses qu'on n'est pas comme ça de base. Donc, c'est se renseigner, lire. Mais par exemple, sur YouTube, c'est important de communiquer sur communauté de YouTube qui est en train de prendre un essor en ce moment.
On peut écrire des messages et tout ça.
Voilà, écrire des messages, mettre des photos de making-of, ça donne des informations pas mal pour le public. Et aussi, du coup, pousser les gens à s'abonner avec la petite cloche sur les clips. En fait, il y a plein de petits tricks comme ça à ajouter sur chaque réseau. Après, il y a aussi tout ce qui est TikTok, Thriller. Il y a des morceaux qui ont marché que grâce à ça, en fait. Le fait de proposer, du coup, un Thriller ou un TikTok, en fait, à partir d'une musique, ça peut aussi, du coup, lancer un buzz sur cette musique-là et pousser les gens à découvrir un artiste. Et la trap, ça marche plutôt bien sur ces applis-là, ce qui est assez marrant. Et ouais, je dirais déjà que bien connaître les outils qui sont à disposition sur chaque plateforme, c'est important. Pareil pour le streaming, hein, en réalité, sur Spotify, même si tu passes par DistroKids ou TuneScore, tu peux quand même pitcher la sortie de ton morceau en allant sur Spotify for Artists et en remplissant un formulaire. Donc il faut vraiment juste avoir une connaissance approfondie, je pense, des réseaux.
Toi, Nedelco, c'est tous les tricks, par exemple, qu'a évoqué Anaïs, c'est des trucs que tu connais ou tu t'es renseigné là-dessus ?
Moi, je fais TikTok, je suis mort. Hein.
Ouais.
Les gens, ils vont pas être contents. Ouais. Hein.
Mais est-ce que le public de l'animalerie est sur TikTok ?
Bah non, je pense pas. Mais après, le public de l'animalerie, c'est quelque chose qui est compliqué aussi parce que il est pas. Par exemple, on est nouveau avec Edgar et il est pas acquis à notre cause. Il est plutôt assez. Pour certains, hein, je parle pas pour tous, il y en a qui le prennent avec beaucoup d'entrain, mais il est plutôt assez réfractaire et assez. Il veut les têtes d'affiche qu'il affectionne. Il veut voir toujours un peu la même chose et tout ça. Donc le public de l'animalerie, ça a été super comme vitrine. Mais il y a aussi.
T'as ton taf à faire après.
Ouais, c'est sûr. Mais oui, bien sûr, après Spotify for Artists, il y a énormément d'articles à lire et ça, c'est vrai que j'y passe pas assez de temps. Parce que on fait beaucoup de musique aussi, c'est ça. Mais c'est un truc que j'aimerais approfondir parce que en effet, c'est super riche comme plateforme, c'est super bien. Et donc ouais, ça. Ouais. Mais TikTok ou Thriller, ça marcherait bof. Ouais.
Et comment tu t'informes justement sur ce genre de petites infos ? Donc on parle de Spotify for Artists. Est-ce que tu en as d'autres ? Et comment tu chopes les infos justement pour essayer de progresser dans ces domaines-là ?
Échange entre artistes déjà. Par exemple pour Groover. Moi c'était le guitariste de Arch qui m'en avait parlé, donc autre groupe qui était au showcase qu'on a fait
il y a quelques semaines, ouais.
Et du coup c'est souvent entre artistes qu'on se refile des petits tuyaux, puisque moi j'en fréquente pas mal qui ont leur groupe, qui font leur comme tout seul et tout ça, et du coup échange ébullition. Voilà.
Au-delà de la communication sur les réseaux sociaux, la visibilité pour les artistes, elle peut s'acquérir aussi ailleurs. Est-ce que vous avez peut-être des techniques en tête de manière d'acquérir une visibilité plus importante ?
Quand tu parles d'ailleurs, c'est par exemple sur scène ou
Par exemple, okay. En affichage, en stickers ou autre, toute
oui,
campagne
bien sûr.
De communication.
Moi, je pense qu'il faut toujours essayer de garder du street marketing. Donc quand on fait des sorties, je sais pas si tout le monde le fait encore maintenant, mais moi j'aime toujours qu'il y ait des affiches en fait. Je trouve que c'est quelque chose de sympa, que c'est beau à regarder, que ça habille la ville.
Les gens les gardent.
Voilà, les gens ont envie de les avoir, c'est vivant. Quand on a fait l'affiche de 8, il y a 3 personnes qui sont passées au bureau en nous disant « je peux en garder une s'il vous plaît » et tout, enfin, c'est assez marrant. Et oui, donc ça, je trouve que c'est intéressant. Après, je pense que le live, c'est quand même aussi quelque chose d'énorme. Donc, essayer de choper une première partie d'un artiste qui tourne sur toute une tournée, je pense que ça, c'est vraiment une grosse, grosse visibilité. Ça peut être vraiment fort. Et puis, faire un maximum de live dans un maximum de villes différentes pour se faire connaître d'abord dans sa région, mais petit à petit partout. Hein. Ça marche assez bien et encore maintenant... Il n'y a pas que le digital qui fonctionne.
La scène, ça marche super bien. Les premières parties, comme tu disais, j'ai fait la première partie de Docs en novembre dernier, qui a une grosse communauté, lui, pour le coup. Et j'ai jamais pris autant aussi vite sur les réseaux, pour le coup, qu'après ce show-là, où vraiment... Là, je fais celle de Oxmo le 13 mars. Après, ça, je ne sais pas si ça va être... la même chose en termes de répercussions, parce que c'est un public différent encore. C'est peut-être moins un public réseau social. Mais ouais, la scène, les premières parties. Après, c'est une autre, C'est une autre problématique, c'est trouver des dates justement quand par exemple, enfin quand t'as pas l'influence, tu peux envoyer des mails. Nous, c'est ce qu'on fait, mais c'est plutôt les salles qui viennent nous chercher quand elles nous connaissent que le contraire. C'est rare que quand on démarche des salles, on arrive à, parce que ils ont des millions et des millions de mails, voilà, pour plein de raisons.
Ça sera l'objet d'un autre épisode, je pense,
ouais, du podcast
sur les, voilà, sur le booking et tout ça. Mais pour revenir à la com, tout à l'heure tu disais que bah tu faisais de la musique, Nedelko, et que c'était du coup parfois compliqué de consacrer du temps à ta com.
C'est un métier, c'est un autre métier, voilà, des autres talents.
Et du coup, est-ce que c'est une question pour vous deux, est-ce que vous pensez qu'il faut déléguer très vite ce genre de job-là, ou est-ce qu'il faut quand même faire soi-même pour coller le plus possible à son image?
Moi, je pense qu'il faut que ça colle vraiment à l'image, donc pourquoi pas déléguer. C'est une bonne idée aussi pour gagner du temps aussi et que les postes soient faits en temps et en heure, parce que ça, des fois, c'est un peu compliqué entre le moment où tu es en studio, au concert, en promo, et que tu sais que tu dois poster telle ou telle information et que tu n'as pas eu le temps de le faire, d'avoir toujours quelqu'un qui est associé au compte qui puisse le faire. Mais c'est important du coup de travailler le message soi et lui demander de copier-coller en réalité, et du coup de vraiment correspondre à son univers, parce que quand on fait des messages qui sont écrits par des gens externes, c'est très vite repéré.
Ouais, ça se voit, c'est sûr. Moi, je pense que c'est kiff-kiff. En fait, ce qui est intéressant, c'est de gérer son réseau soi-même, mais d'avoir quelqu'un à côté de toi qui s'y connaît bien, qui a les petits tricks du métier, et justement de se concerter. Voilà, de travailler vraiment avec quelqu'un dont c'est le métier. Mais de garder cette patte en fait perso, parce que en vrai, les gens, s'ils te suivent sur les réseaux sociaux, c'est pour toi, c'est pas pour qu'il y ait derrière un community manager, ils ont envie de te parler à toi. Et je vois pour les messages que j'ai et tout ça, moi je trouve ça chouette de pouvoir échanger avec les gens qui écoutent. C'est beaucoup plus intéressant, même pour l'artiste en fait.
C'est peut-être une question bête, mais justement, où on trouve les gens dont c'est le métier de travailler dans la com, de gérer les réseaux sociaux? C'est un truc un peu informel parfois. Comment on trouve, est-ce qu'il y a des plateformes qui existent, comment ça se passe?
Très bonne question.
Ah, il y en a une, j'en ai une en tête. Mais ouais, du coup, Groover sert pas mal à ça. Et puis après, c'est pareil, c'est au fur et à mesure, quand on arrive à mettre le grappin sur quelqu'un, et puis lui-même, il connaît, moi, plus j'ai fait de dates, plus j'ai rencontré des gens dont c'est le métier, en fait, finalement. Mais c'est pour ça que j'ai proposé ces sujets aussi, c'est parce qu'au départ, quand on fait de la musique et qu'on connaît vraiment personne, moi, j'ai eu un coup de chance, en fait, avec Auster La Poisse, que je connaissais pas du tout, finalement, que ça c'est arrivé un petit peu comme ça. Mais sinon, vraiment, autour de moi, personne n'était dans la musique, personne n'était dans la com et tout, et donc je me dis, pour les artistes qui font des trucs cool, qui ont un projet, qui ont une personnalité et tout, mais qui connaissent personne, c'est vraiment compliqué. Donc Groover par exemple, tout ça peut être vraiment des bonnes alternatives, enfin un bon chemin pour commencer, pour se lancer.
Après, il y a des agences qui le font, j'ai pas de nom là en tête, mais il y a des agences en fait qui s'occupent de toute la direction artistique des artistes et qui peuvent aussi prendre en main le community management. Je crois que Au Maximum le fait, ça, par exemple. Mais souvent, ce que je remarque, c'est que c'est les managers qui sont un peu le copilote de l'artiste sur les réseaux sociaux et qui ont tous les accès et qui permettent ça. Et sinon, souvent, le label et le tourneur ont un accès sur les réseaux sociaux pour pouvoir tourner mettre des visuels qui mettent en avant soit une sortie, soit un nouveau clip, ou soit des dates de concert, avec à chaque fois l'avis de l'artiste et son texte de communication. Donc c'est plus, on va dire, un peu tout l'entourage qui s'implique là-dedans. Et souvent, les comptes d'artistes, ils sont tenus par 2-3 personnes, je pense.
Est-ce que, avant de conclure, est-ce que vous avez des exemples de choses, soit à ne surtout pas faire, de sortes de fausses bonnes idées que vous avez croisées au cours de vos expériences, de fausses bonnes idées de com qui ne fonctionnent pas du tout, des fails qu'il faudrait éviter? Ou à l'inverse, des stratégies très, très inspirantes, des choses qui vous ont marqué?
Trop de séances photo, moi je trouve. Enfin, trop de shooting, trop de postes ultra, ultra soignés. Moi je trouve que c'est souvent indigeste. Poster bourré, faites très attention à ça.
Globalement, faire plein de choses bourrées, c'est généralement pas une bonne idée.
Ou des fois, Ça marche, mais c'est un autre type de com. Mais réagir à des gros sujets de société ou des grosses polémiques actuelles, moi je trouve que c'est toujours un peu balourd. Il y a des artistes qui le font et souvent c'est assez mal amené. Mais en vrai ça marche parce que du coup ça réagit énormément. Mais ouais, je trouve que c'est pas super fin souvent. Voilà.
Anaïs, toi, avec les artistes que tu côtoies?
Bah, du coup, pas des artistes que je côtoie, ouais. Mais des fails que j'ai pu voir. Moi, y a un truc
ou inspirant,
que...
j'ai dit. Hein,
oui, oui, je vais dire les deux, okay. Comme ça. C'est trop communiquer sur des choses qui peuvent arriver potentiellement ou qui ne sont pas vraiment très confirmées en mettant que c'est quasi sûr et en étant tout le temps dans le... Enfin, égocentré en disant « c'est super, regardez, il arrive ça », alors que c'est des toutes petites choses qui sont pas très importantes et du coup ça donne un côté pas très classe en fait à la communication et j'ai vu pas mal d'abus à ce niveau-là. Sinon, dans des choses inspirantes, moi j'ai adoré, on va dire, le travail de Roméo Elvis et Angèle en termes d'humour avec... un Instagrammeur qui s'appelle Yougnat et qui fait des mèmes. Et en fait, il a fait beaucoup de séries de mèmes sur eux qu'ils ont repartagé. Et je trouve qu'en termes de communication, donc se servir d'un truc d'internet, donc le mème, et le transformer du coup avec un artiste, j'ai trouvé que c'était assez fort. Il l'a fait avec l'homme pâle aussi et c'était vraiment réussi. Et sinon, d'inspirant, bah, j'ai bien aimé la campagne qu'on a fait là avec Joël Fesneau pour le clip hollandais, où en fait on fait une fausse publicité pour une application qui n'existe pas, et quand on scanne le QR code qui est sur toutes les affiches, et ben ça mène vers le clip vidéo. Voilà, et ça c'était assez intéressant.
Est-ce que ça c'est des choses qui coûtent cher, sans rentrer forcément dans les détails, mais est-ce que voilà, un artiste qui commence, qui n'a pas forcément de gros budget, est-ce qu'il peut faire ce genre de choses?
Il peut faire ce genre de choses. En fait, déjà pour coller les affiches, ça coûte pas cher par exemple à imprimer. Coller des affiches, si tu respectes les règles, tu peux le faire toi-même. Enfin, tu as besoin de colle, d'un balai, et puis c'est bon quoi. Donc si t'es vraiment déter, ce genre de choses, tu peux le faire toi-même. Et du coup, par exemple, avoir un QR code qui soit actif comme ça, avec, où tu puisses mettre le lien du clip, ça coûte 60 euros l'année.
60 euros voilà. L'année, oui, donc c'est accessible.
C'est accessible.
D'accord.
Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'innover. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui marche très bien aussi, c'est la récurrence, les concepts. On a pu le voir avec Stromae quand il faisait ses épisodes, donc ça c'était plus à l'ancienne. Mais on a pu le voir aussi avec 47h qui vient revisiter les classiques. Je ne sais plus c'est quoi le nom des freestyles, on vient niquer vos classiques ou un truc dans le genre. Et en fait... Là, je parle d'exemples, de choses qui ont fonctionné. Et ben, du coup, ça a pris parce que c'était récurrent et parce que, du coup, ils appliquaient un concept comme ça que le public avait bien aimé sur une durée dans le temps, quoi. Donc, je pense que la récurrence c'est important et trouver une idée en fait à faire suivre et à faire évoluer. Et je trouve que le fait de se rattacher à quelque chose, par exemple, Angèle, c'est la loutre. Et eh ben, elle a plus besoin de beaucoup chercher dès qu'elle doit faire des posts ou quoi. Elle a juste à dire ah bah c'est vrai que je tourne autour de ce thème-là, donc tiens j'ai qu'à faire une photo au zoo ou n'importe quoi. Et en fait, créer un thème qui devient récurrent, c'est facile en fait à exploiter après pour la suite. Ça permet un peu plus d'être libre.
Bon parfait, on arrive bientôt à la fin de l'épisode. C'est un peu trop court. Merci à tous les deux d'avoir partagé vos expériences.
Avec plaisir.
Très instructif. J'espère que vous, chez vous aussi, vous avez appris des choses. Alors jusqu'à présent, on a beaucoup parlé business et stratégie, mais sans musique, il n'y a pas de business, il n'y a pas de stratégie. Donc à chaque épisode, on va se quitter en musique avec un live de l'artiste invité. Et c'est donc Nedelko qui va nous interpréter un inédit. Qu'est-ce que tu fais là?
Ah bon, un petit freestyle. Un freestyle. Hein, du coup, on fait un peu de rap. Voilà.
Bah parfait.
Tranquillement.
Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Groover Tips. D'ici là, allez faire un tour sur Groover, on en a parlé pendant l'émission, et surtout croyez en vous, c'est le plus important. Ciao.
Un petit peu de rap. Un.
Les singes montent aux arbres et les flics, c'est pas des biochimistes. Dîner entre amis, disons qu'on parlera pas de politique. Riz nature, pâte au sel et pain sans sauce. Ceux qui ont cru en moi se comptent sur les doigts d'une main de manchot. Mais merliche, putain j'ai dit merliche. Appropriation culturelle, genre comme un prolo qui joue au tennis ou qui est riche. T'as vu, je fais le tour des idées à la con. Petit connard éloquent, détrôneur à tort éloqui. Fais pas le grand sage, sale punk un chien, ton père est médecin. Rentre chez toi, embrasse maman, mon petit Célestin. Ta personnalité, tu détestes le lundi, t'adores la raclette. Et tu cites les visiteurs à tort à travers. Putain, beauf. Abruti dans la gauve, ta grand-mère la chauffe, suce les Allemands, encule des chèvres. Start peur pour tous quand y'a de la semaine, quand y'a de la cesse. Toi t'as pas de visage, t'as pas de race, t'as pas de faciès. Fils de pute, fils de pute, j'hésite en piche et purge. L'ego en petite tenue, chérie tout ce qui me tue, qui me tue, qui me tue. Je suis toi qui es-tu, les gens bien triment le plus. Bah ouais la vie c'est dur, hein. Pine ta mère, j'taffe le bide à bière. Le cœur fait l'amour, et le visage baisse. Regarde pas les gens comme ça, petit connard en pull raflo. La mère raflée, la narcisse tarantule rafreuse. J'aime bien écouter les gens avant d'être sûr. Mais l'aura parle en moratoire, pélo. J'suis jumeau maléfique, mon jumeau maléfique, hein. Donc quand c'est moi, bah c'est pas moi, c'est l'autre. Je reprends mon souffle, tu prends ton pouls. Une fois par terre, ils rendront tout. J'existe par procuration de vos yeux, vos silences des visages. L'estime broyée demeure un cœur osseux. Hey, chien de la casse, grand palace. Je viens de me lever, je bande ma race. Bois de chavo, accroît de chavo, ça c'est bien de chez vous. Bientôt plus de cheveux comme la poisse, mais je m'en malaxe les couilles. Je me tue, je m'immole, j'ai le cul qui miaule. La vie c'est bof, genre demi-molle. Moi je suis comme vous, j'aime la débauche. Ça marcherait mieux si j'étais moche.
Merci.
Bah voilà, y a pas de chute, ça sera la fin du podcast. Merci beaucoup.
C'était une émission du Poste Général.